Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, c'est SOS, la société civile de Kasongo au Maniema, aux autorités du pays. Près de 100 détenus de la prison centrale de Kasongo n'ont ni nourriture, ni eau, ni médicaments et la situation perdure. Les agents ne sont pas mieux lotis puisqu'on en prise en charge par l'État. Le vice-premier ministre de la fonction publique est à Kolwezi dans le Lualaba. Jean-Pierre Liao a tenu une séance de sensibilisation à l'intention des forces de défense déployées dans la région. Il a évoqué les avancées et les avantages prévus par la nouvelle loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le gouvernement congolais indique avoir monitoré plus de 17 000 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique en une année dans les zones sous occupation rebelle. Ceci est contenu dans un rapport publié samedi à Kinshasa. Ce thème a été abordé hier dans l'émission Dialogue entre Congolais. Dans ce journal, les réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal qui part de la province du Maniema. La société civile de Kasongo alerte les autorités à tous les niveaux sur les conditions de détention à la prison centrale de Kasongo. Selon cette structure citoyenne, l'établissement manque de presque tout, ce qui met la vie des détenus en danger. Cette situation s'explique par l'absence de subvention de l'État congolais depuis au moins 10 mois. Jean Amoury Kitoko, président de la société civile de Kasongo, appelle les décideurs à assumer leurs responsabilités afin de permettre à cette prison de remplir correctement sa mission de rééducation et de réinsertion sociale. Il est joint par Florence Kizalunga.
La situation que traversent les prisonniers de la prison centrale de Kasongo est gravement inhumaine. Ces prisonniers qui sont au-delà de 95 n'ont ni eau, ni médicaments, ni à manger. Imaginez que cette population aujourd'hui réalise plus de 10 mois. Nous disons 10 mois parce que au cours de l'année 2025, sur 4 trimestres, cette prison n'a été subventionnée qu'un seul trimestre. Les restes des 4 trimestres, les prisonniers sont censés se prendre en charge. Outre cela, les agents commis à cette maison carcérale ne sont pas aussi payés par l'État. Tous NI et qui cherchent comment se retrouver. Ils étaient 60, mais aujourd'hui il reste autour de 5, dont un seul est payé. Dit cette situation, la tracasserie monte à l'outrance dans la prison centrale. Les frais des bougies tournent jusqu'à 350 000. L'assistance des prisonniers qui sont dedans entre 1 000 francs jusqu'à 10 000 francs. Cette situation calamiteuse inquiète la société civile et interpelle les pouvoirs congolais de pouvoir bien jouer son rôle car les prisonniers ont droit à la vie.
Contactez le ministre provincial de la Justice d'y être au courant de cette situation. Il affirme fournir des efforts pour améliorer tant soit peu les conditions de détention en attendant l'intervention du gouvernement central. Sachez que cette situation touche plusieurs prisons à travers le pays. La semaine dernière, nous avons par exemple diffusé l'appel à l'aide du cadre de concertation de la société civile de Bandundu à propos des temps difficiles que vivent les détenus dans toute la province du Kwilu. À Lubumbashi, parlant de la clôture hier mardi d'une formation des magistrats organisée par le Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui du gouvernement, 337 participants dont 62 femmes ont bénéficié de ce renforcement des capacités pendant 3 mois. Ces magistrats font partie de 2500 nommés par ordonnance présidentielle au mois de mars dernier. C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui a présidé cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Monseigneur Tarsiso Chibango de l'Université de Lubumbashi. Il a demandé aux magistrats une soit affecté de mettre en pratique toutes les notions apprises pour relever la justice, quel que soit l'endroit où ils seront déployés. À la fin, tous ces nouveaux magistrats ont reçu chacun une toge. Et d'après le procureur général, près la Cour constitutionnelle, c'est dans les tout prochains jours que chacun d'entre eux connaîtra son lieu d'affectation. D'autres précisions avec Askin Zigbataero.
Pendant 3 mois, ils ont appris 31 modules en 260 heures portant notamment sur le pratique judiciaire, l'éthique et la déontologie du magistrat et autres. Cette formation a été assurée par 24 animateurs, parmi lesquels le haut magistrat, les magistrats professeurs d'université et autres avocats. À noter aussi que parmi les 337, il y avait aussi 19 magistrats militaires. Après ces 3 mois de formation académique, ils vont poursuivre le stade sous l'égide de chefs de parquet civil ou militaire où ils seront affectés. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a, à cette occasion, demandé à ces nouveaux magistrats de travailler dans l'ordre, la dignité, le respect de la hiérarchie en rendant justice d'une manière juste, sans autre considération. des recteurs de l'université de Lubumbashi, dont l'institution a accueilli cette cérémonie, a pour sa part exhorté ses magistrats à faire honneur aux institutions qui les ont formés par un comportement exemplaire pour mériter de la confiance placée en eux.
Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est arrivé à Kolwezi depuis hier mardi, chef-lieu de la province du Lualaba. Jean-Pierre Liaou a tenu une séance spéciale de sensibilisation à l'intention des forces de défense déployées dans la région. Selon le compte X du ministère, les échanges ont porté notamment sur les avancées et les avantages prévus par la nouvelle loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Une réforme structurante qui renforce la protection sociale, sécurise l'avenir des agents et consolide le de l'État protecteur. On écoute Jean-Pierre Liaou dans cet extrait que nous propose Alain Rung.
D'aucuns peuvent s'interroger sur ce que font les hommes en uniforme en face du ministre de la fonction publique. Et celui-là, d'abord parce que avant d'être des hommes en uniforme, militaires, policiers, vous êtes, ça on l'oublie souvent, vous êtes des agents publics de l'État. Et en tant que tel, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de faire d'essai de la police nationale, de nous instruire pour que désormais, dès lors qu'il s'agira des discussions tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics, que nous puissions systématiquement et automatiquement prendre en compte la situation des agents militaires, pas seulement civils. C'est pour cette raison qui a eu d'abord, vous l'avez vu, un premier pas concernant votre traitement. On a parlé du doublement, mais ce n'est qu'un pas. Il y en aura un deuxième, puis un troisième, jusqu'à la professionnalisation complète de vos corps respectifs.
La dématérialisation des procédures d'importation, d'exportation et de transit, lancée le 29 décembre par la première ministre, bénéficie désormais de l'appui de Gandé, expert du guichet unique en Afrique. Une réunion technique s'est tenue hier à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, les experts du guichet unique intégral Ségus RDC et les responsables de Gandé. Objectif, organiser le partage d'expériences, notamment autour du système Orbus et de la signature électronique des documents commerciaux. Le directeur général de Ségus RDC, Yann Leroux, salue cette collaboration. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Grâce Hamzati.
Eh bien, nous avons échangé sur les outils de digitalisation du commerce extérieur, et notamment celui qui a été développé en RDC. Et puis nous avons échangé sur celui qui a été aussi développé au Sénégal pour comparer un petit peu les fonctionnalités, les possibilités des différents outils. C'est extrêmement intéressant et je pense qu'il est très important d'être challengé, de comparer les solutions pour toujours identifier les meilleures voies de progrès que l'on peut avoir sur nos outils. Alors, je pense qu'on est bien en amont du partenariat à ce stade puisque c'était une première prise de contact, mais en tout cas, il est toujours intéressant d'écouter ce qui se fait ailleurs. En plus, nous connaissons bien l'outil du Sénégal puisque nous participons à l'Association africaine du commerce électronique, comme le Sénégal. Donc nous connaissons ces acteurs-là parce que nous les avons rencontrés dans le cadre de cette association. Donc c'était intéressant d'échanger et de voir un petit peu les solutions qu'ils peuvent apporter. On a pu aussi identifier qu'on avait des performances qui étaient somme toute assez comparables. Donc c'était extrêmement intéressant.
La République démocratique du Congo, à travers l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC, accueille à Kinshasa à partir d'aujourd'hui 25 février jusqu'au vendredi 27, la deuxième réunion du comité juridique et politique de l'Association des régulateurs des communications de l'Afrique centrale, CRASA. Dans un communiqué publié hier dans la capitale congolaise, l'RPTC précise que cette rencontre régionale réunit des experts et responsables des autorités nationales de régulation des communications électroniques d'Afrique. C'est pour examiner l'état d'avancement du plan de travail du comité pour la période 2025-2026. Autre précision avec Assam Zati.
Le communiqué indique que les travaux porteront notamment sur l'assistance juridique à apporter aux autres comités permanents ainsi que sur la finalisation des documents devant être soumis à la 15e Assemblée générale annuelle de la CRASA. Les participants devront également définir les priorités stratégiques et élaborer le plan de travail pour l'exercice financier 2026-2027. En accueillant ces assises, la RDC réaffirme son engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale, de l'harmonisation des cadres juridiques et réglementaires, ainsi que du développement d'un environnement de communication moderne, stable et propice aux investissements, soulignent les documents. La CRASA regroupe les autorités de régulation de plusieurs pays d'Afrique australe, dont la République démocratique du Congo, organisation régionale de coordination et Elle a pour mission de promouvoir la coopération entre régulateurs, d'harmoniser les politiques et cadres réglementaires, de faciliter le partage d'expériences et de contribuer à la mise en place d'un marché régional des communications intégrées, compétitif et inclusif. La tenue de cette réunion à Kinshasa illustre la dynamique des collaborations régionales et la volonté commune des États membres de consolider la gouvernance du secteur des postes et des télécommunications en Afrique australe, conclut le communiqué.
Par ailleurs, l'Agence congolaise des grands travaux ACGT note l'évolution positive des travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Dans sa dépêche parvenue hier à Radio Kapi, la route en est déjà à l'étape de la couche de base à la sortie de la cité de Kasenga. Les mêmes sources rapportent que les travaux du pont jeté sur la rivière Luapula avancent également à grands pas et sa livraison devrait avoir lieu d'ici au mois de juillet selon la CGT. Autre précision avec Onassia Tambo.
Sur l'axe Makungu-Tchaloué, longueur de 19 km, signale l'Agence congolaise des grands travaux, la plateforme héritée des travaux préliminaires a été améliorée et prête à accueillir la couche de base. Pour le drainage des eaux, indique le même source, plusieurs passages sous route ont été réalisés à l'image des trois dalots allant des 4 à 2 pertuis, complète par l'installation de plusieurs bases aux endroits indiqués par les études. Ce projet comprend trois composantes, la route qui fait 90 km en Zambie et 98 autres en RDC, le pont à Ouban de 310 mètres jeté sur la rivière Luapula et le poste frontière dont les travaux ont commencé par un déblayage de l'espace. Les travaux du pont jeté sur la rivière Luapula avance à grands pas et sa livraison devrait avoir lieu d'ici le mois de juillet selon la CGT.
Joyeux anniversaire à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Okapi, à vous qui nous suivez sur Internet. En effet, le 25 février 2002, Radio Okapi voyait le jour. 24 ans plus tard, elle poursuit sa mission de consolider la paix en République démocratique du Congo. Fruit d'un partenariat entre la Fondation Hirondelle et la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, devenue aujourd'hui MONUSCO, cette radio a été créée pour accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo. Émettant depuis Kinshasa, elle diffuse ses programmes en français ainsi que dans les quatre langues nationales, soit Ili, Lingala, Kikongo et Chiluba. Madame Gertrude Biaya Ndaya, basée à Mbujimayi et qui travaille dans la défense des droits des femmes, dit apprécier l'objectivité de Radio Kapi dans la diffusion des informations. On l'écoute au micro des standards à la finale.
Ce que j'apprécie chez Radio Okapi, c'est l'objectivité dans la présentation de toutes ces émissions, les dossiers, etc. Et du fait aussi que Radio Okapi donne la parole aux auditeurs pour s'exprimer sur les différentes situations d'actualité en République démocratique du Congo. Donc, par rapport à son intervention dans son rôle dans la paix, la radio Okapi, en connectant les Congolais ensemble, la radio Okapi permet à ce que les informations puissent circuler et que les citoyens puissent s'exprimer et éviter aussi la désinformation.
Dans la province du Maniema, le commissaire provincial ad intérim des scouts du Maniema appelle la population à s'engager dans les principes fondamentaux du scoutisme pour favoriser un développement intégral. Cet appel a été lancé hier à Kindu à l'occasion de la journée internationale du scoutisme célébrée le 24 février. Zachary Bafoufoua Béa invite également les parents à envoyer leurs enfants au mouvement scout afin qu'ils bénéficient d'un encadrement approprié. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Les scouts sont en train de célébrer le 169e anniversaire de la naissance du fondateur Baden-Powell, mais aussi le 119e anniversaire de la naissance du mouvement. Tous les membres de la FESCO sont obligés de se ranger derrière une fraternité vivante. Pour cette année, c'est que la commémoration est presque double. Doublée par le fait que nous commémorons ces anniversaires dont je venais de faire allusion, mais aussi il y a lancement de la quinzaine scout. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous commençons une quinzaine pendant laquelle les scouts doivent organiser plusieurs activités pour accompagner la festivité du 22 février. Notamment dans le domaine de l'éducation, il y aura des sensibilisations qui seront organisées dans plusieurs milliers, mais il y a aussi une conférence débat qui sera organisée le jour de la clôture de la quinzaine scout. Nous aurons un match de football aussi. Nous aurons des visites dans les hôpitaux, dans les orphelinats, on aura des visites des scouts et là, ce sera la bonne action quotidienne qu'on aura à organiser.
Actualité internationale.
Le gouvernement nigérien a nié hier avoir versé une rançon à Boko Haram pour libérer environ 230 écoliers membres du personnel d'une école catholique enlevée en novembre par des djihadistes du groupe armé dans l'état central du Niger. Ce démenti intervient après la publication par l'agence France Presse d'une enquête affirmant que le gouvernement aurait versé aux militants de Boko Haram une rançon énorme s'élevant à plusieurs millions de dollars. L'argent aurait été livré par hélicoptère au bastion de Boko Haram à Gnosa, au nord-est du pays à la frontière avec le Cameroun, précise la FP, qui cite des sources au sein des services de renseignement. Le ministre nigérian des formations, Mohamed Idriss, a qualifié ces allégations de totalement fausses et infondées.
L'invité.
Le gouvernement congolais indique avoir monitoré plus de 17 000 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique en une année dans les zones sous occupation rebelle. Ceci est contenu dans un rapport publié samedi à Kinshasa. Ces violations comprennent 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 d'enlèvement et 417 de torture et autres traitements inhumains. C'est ce qu'a précisé le ministre des Droits humains Samuel Mbemba. Il a également souligné que ces violences ont entraîné environ 7 400 000 déplacés internes et externes, tout en visant les propriétés privées des populations. Ce thème a été abordé hier dans l'émission Dialogue entre Congolais. On écoute les réactions des différents intervenants au micro de Guy Maté.
Gilbert Ifuanga, Walofu, vous êtes avocat, vous êtes directeur des cabinets de la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Vous êtes également conseiller juridique de cette institution. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ces rapports?
Ce qui a motivé la rédaction de ces rapports, c'est le fait que le gouvernement a voulu assurer la justice pour les victimes et lutter contre l'impunité des crimes graves et des violations des droits de l'homme qui ont été commis. Effectivement, c'est pour aussi conserver des preuves fiables.
Et comment avez-vous procédé pour collecter ces informations quand on sait que le gouvernement n'a pas accès, n'est-ce pas, aux zones où ces violations auraient été commises?
Premièrement, il y a eu un cadre de collecte des données qui avait été mis en place. Le cadre de collecte des données était composé de représentants des ministères et des institutions publiques dont la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que les représentants de la société civile qui ont amené des rapports publiés sur l'occupation des villes de Goma et Bukavu. Nous avons aussi recouru à certains rapports publiés par certains organismes internationaux. Nous avons collecté les données et on s'est aussi servi de certains témoignages de victimes parce qu'il faudrait le dire que dans la commission qui avait élaboré le rapport, il y avait aussi la plupart des victimes de cette agression, de cette occupation de ville de Bukavu et de Goma.
Jean-Claude Katende, vous êtes avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Quelle pourrait être la crédibilité de ces rapports dès lors qu'il émane du gouvernement qui est aussi parti au conflit?
Bon, je pense qu'il est du devoir du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a le mandat de gouverner le pays, d'établir le rapport sur la situation des droits de l'homme à l'Est. Aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que ce rapport est fiable et crédible jusqu'à ce que quelqu'un d'autre produise des preuves contraires. Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits du fait que, à l'Est, c'est vrai, il y a des violations de droits humains, mais il y a aussi des violations à l'ouest ou dans la partie du pays contrôlée par le gouvernement. Et nous serions contents de voir que le ministère des droits humains établit un autre rapport sur la situation telle qu'elle se passe à l'ouest ou sur la partie contrôlée par le gouvernement, dans la mesure où nous estimons qu'il y a des arrestations arbitraires, il y a des détentions qui ne répondent pas aux règles légales. Je pense que le ministère des droits humains a cette obligation d'établir un rapport sur l'ensemble du pays.
Johnson Ishara, on a connu d'autres rapports de ce genre qui, pour des raisons politiques dites de réconciliation nationale, ont été classés dans les tiroirs et on n'en parle plus. Vous ne pensez pas que ces rapports risquent aussi de connaître les mêmes sorts?
Non, je crois également que le même ministère, j'en parle ici sous le contrôle de Gilbert Ifuanga, le ministère des droits humains travaille aujourd'hui sur l'applicabilité de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle implique quoi? C'est vrai. On peut bon dire que au nom de la cohésion nationale, mais la cohésion nationale ne veut pas légitimer les criminels. La cohésion nationale ne veut pas dire que le bourreau sont maintenant à applaudir, que le victime reste dans leur tombeau. Non, la cohésion nationale, à travers la justice transitionnelle, verse que oui, il doit y avoir réparation. Ceux qui étaient vraiment impliqués enfants dans la violation des droits humains, dans les exécutions sommaires des Congolais, eh bien, qui répondent de leurs actes. Donc, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été classés, comme cela est toujours dit, mais moi je pense que cet épisode que le pays est en train de traverser devrait nous permettre de quitter d'abord ces caps d'hypocrisie, ces caps également de vouloir blanchir ceux qui ont sali la réputation du pays. On compte de morts, on continue à en compter, mais s'il faut qu'on arrête également cette hémorragie, il faut commencer par frapper. Et frapper, ça veut dire punir à travers la justice, que les gens répondent et que grâce à ces sanctions, je pense que les autres pourront un peu se retenir et qu'ils pensent autrement par rapport à toutes les exactions commises sur le terrain.
Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. C'est la fin de ce journal préparé par Alain Ronk, mis en onde par Pierre Diassinois. Merci de votre attention. Heureux anniversaire à vous, fidèles auditeurs et auditrices et internautes.